Bon réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le budget 2021 arrive à l'Assemblée et il crée déjà du dissensus à gauche et au sein de la majorité. En question, l'absence de contrepartie demandée aux entreprises qui se verront allégées de 10 milliards d'euros d'impôts de production l'année prochaine. Et justement, l'Observatoire des multinationales fait paraître aujourd'hui un rapport sur l'argent public donné aux grands groupes pendant la crise sanitaire. Une aide massive mais très peu transparente.
Nous irons en Allemagne également où le télétravail, plébiscité par la population, doit faire l'objet d'une loi et suscite la méfiance des politiques et des syndicats.
Nous ferons le point également sur les dernières mesures de restriction de déplacement en Europe alors qu'approchent les vacances de la Toussaint. Et puis, un nouveau procès en appel s'ouvre aujourd'hui pour régler, encore une fois, le cas Bernard Tapie, Crédit Lyonnais.
Et puis, le journalisme de solution, à ne pas confondre avec le journalisme de bonnes nouvelles, est à l'honneur sur notre antenne. Et dans de nombreux médias français, nous le verrons à la fin de ce journal.
Enfin, après ce journal, ce sera le billet politique de Frédéric Saïs qui parlera de rondeur en politique. Les milliards d'euros de baisse d'impôts prévus pour les entreprises en 2021 vont-ils ruisseler sur les chiffres du PIB? Ce sera tout l'objet de la discussion budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés commencent l'examen du projet de loi de finances pour 2021. Un texte qui prévoit donc d'alléger de 20 milliards d'euros sur deux ans les impôts dits de production que payent les entreprises, des impôts censés abonder les finances des collectivités locales. Ces allègements doivent redonner du souffle aux entreprises et amorcer la reprise, mais à gauche et dans la majorité même, beaucoup réclament des contreparties ou des conditions à ces baisses d'impôts. Tour d'horizon des arguments de chacun avec Rosalie Lafarge.
Le plan de relance, c'était franchement l'occasion de faire bouger les choses pour le coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée, Mathieu Orphelin.
C'est assez dingue. On va donner 20 milliards d'euros, 10 milliards d'euros par an. Et en échange, on n'est même pas capable de demander aux entreprises un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des engagements supplémentaires sur l'égalité hommes-femmes ou sur le devoir de vigilance sur les sociétés sous-traitantes. Même ça, on ne pourrait pas demander aux entreprises. Soyons sérieux.
Mais cette attitude n'étonne pas du tout l'insoumis Alexis Corbière.
Je crois effectivement qu'il y a toujours une volonté d'apporter de l'aide à un certain type de patronat. Et on voit bien comment il y a une espèce de discours lacrymal permanent d'un grand patronat qui ne voit qu'une chose, c'est il y a trop de contraintes concernant le droit du travail, il y a trop de contraintes sur les cotisations sociales, il faudrait toujours moins payer, moins payer, moins payer. Ça n'est pas une contrainte que de demander à ceux qui font du profit de participer à l'effort national.
La majorité n'est pas contre l'idée d'y réfléchir, mais l'essentiel pour l'instant c'est de préserver la relance, plaide La République En Marche.
Quand vous avez quelqu'un qui se noie, vous ne lui demandez pas d'apprendre à nager avant de le sortir de l'eau.
Roland Lescure est le président LREM de la Commission des Affaires Économiques.
Je suis juste un peu circonspect sur des contraintes très fortes, des carcans qu'on mettrait à un moment où on a plutôt besoin, malheureusement, d'agilité pour essayer de se sortir de l'ornière. Un petit restaurant aujourd'hui qui n'a plus de clients dans l'Aveyron, on ne va pas lui demander la même chose que Total ou Air France. Donc c'est là qu'il faut faire attention à ne pas mettre dans la loi des costumes à taille unique qui finalement ne vont à personne.
On peut aussi faire du sur-mesure, relativise certains dans la majorité qui, encore une fois, aujourd'hui, risque d'apparaître divisé.
Et c'est ce matin que l'Observatoire des multinationales a choisi pour faire paraître un rapport sur l'argent public et les entreprises, justement, un rapport intitulé « Aide publique, les Corona profiteurs du CAC 40 ». Cette publication qui observe à la loupe les pratiques des multinationales fait le point sur ces groupes qui ont bénéficié des aides publiques de l'État pour aider à passer la crise sanitaire, des entreprises dont une grande partie, un tiers de celles du CAC 40, selon l'Observatoire, a continué à verser des dividendes à leurs actionnaires, et ce alors que le gouvernement avait demandé la modération. Tout comme les députés de l'opposition, les auteurs du rapport estiment qu'il est temps d'exiger des contreparties à ces aides publiques, mais aussi, voire surtout, de la transparence dans l'utilisation qui en est faite par les grands groupes. Maxime Combe, de l'Observatoire des multinationales, rappelle ainsi que le soutien public aux multinationales est parfois peu visible, à l'image de celui des banques centrales.
Il y a des aides publiques qui ne sont effectivement que peu connues. Par exemple, les banques centrales, la Banque Centrale Européenne et la Banque de France rachètent la dette que les entreprises privées ont sur les marchés financiers, et c'est des formes de soutien relativement massives qui vont se compter en dizaines de millions, centaines de millions d'euros, et qui viennent donc du coup les aider du point de vue de leur trésorerie. Par exemple, l'entreprise Total, qui est quand même un des plus gros acteurs du CAC 40, un des plus gros acteurs du réchauffement climatique à l'échelle française, européenne et internationale, a manifestement été très largement soutenu par les banques centrales européennes et la Banque de France à travers le rachat d'obligations sur les marchés financiers, alors que nous aurions pu exiger, effectivement, compte tenu de la période, de la pandémie, que s'il y ait de l'argent public qui aille à ces entreprises extrêmement polluantes, qu'il y ait des conditions écologiques extrêmement fortes. Ce n'est pas le cas.
Maxime Combe, et côté législatif, la discussion budgétaire et ses 3000 amendements devraient durer une semaine. À la fin du mois seulement sera abordé le volet plan de relance. Une étudiante sur 20 a déjà été victime de viol et une sur 10 d'agressions sexuelles en France, selon le constat d'une enquête menée dans l'enseignement supérieur et publiée ce matin. Ces violences sexuelles sont attribuées notamment à l'effet de groupe ou à l'alcool. L'enquête a été réalisée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, un observatoire constitué en mai 2019. Alors que le gouvernement a prévu d'élargir le fonds de solidarité à de nouvelles professions, comme les fleuristes, un secteur cherche à se faire entendre aujourd'hui. Les forains qui ont prévu de manifester à Paris, Rouen, Metz ou Lille, ils seront reçus à 13h à Bercy. Et puis un nouveau comité interministériel tourisme est prévu aujourd'hui à Matignon. Les professionnels du secteur espèrent que la filière retrouvera des couleurs grâce aux vacances de la Toussaint, alors que deux villes du sud de la France passent à partir de demain, mardi, en alerte maximale. Il s'agit de Montpellier et Toulouse. Si en France, les travailleurs sont revenus assez massivement travailler dans les locaux de leurs employeurs à la rentrée, faute de consignes claires du ministère du Travail notamment, les Allemands, eux, semblent avoir pris l'habitude de télétravailler. Début octobre, le ministre allemand du Travail a présenté un ambitieux projet de loi pour développer ce télétravail après le Covid. Et pourtant, le texte est loin de faire l'unanimité. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
Pour le social-démocrate ministre du Travail Hubertus Heil, les Allemands qui ont pris goût au télétravail devraient avoir à l'avenir le droit de travailler au moins 24 jours par an depuis chez eux. Le télétravail, ce n'est pas que pour les jeunes des agences avec leur ordinateur portable et leur café macchiato sur les genoux. C'est une composante essentielle d'un monde du travail moderne, argumente le ministre. Mais ni les syndicats qui redoutent une surcharge de travail, ni le patron pour qui ce n'est vraiment pas le moment, ne sont favorables au projet. Du coup, les chrétiens démocrates sont hostiles. Oui au télétravail, non à l'obligation pour les employeurs de l'autoriser. Telle est en gros la position des conservateurs allemands. Et la chancellerie vient de trancher. Il n'y aura sans doute pas de majorité au Parlement et donc pas de loi d'ici la fin de la législature, d'autant que le projet ne figurait pas sous cette forme dans le contrat de coalition de 2018.
Nathalie Versieux.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. L'épidémie, en tout cas, continue de contaminer à travers toute l'Europe. Si la France comptabilise à ce jour 1483 personnes en réanimation à cause du Covid, soit un record depuis le mois de mai dernier, à l'échelle du continent, ce sont près de 6 millions de cas qui ont été recensés.
Et la crainte d'une deuxième vague plus dangereuse que la première se fait jour, et avec elle les restrictions aux déplacements. Mais comme lors de la première vague, les Européens avancent en rang dispersé, même si les États membres vont tenter de se coordonner un peu mieux. Alors que se profilent les vacances de la Toussaint, le point sur les États qui laissent circuler les voyageurs avec Marie-Pierre Véraud.
La liste des pays où le touriste français entre sans entrave se réduit comme peau de chagrin. Pour l'heure, il est encore possible d'aller sans trop se poser de questions, flâner, masqué bien sûr, dans les rues de Lisbonne ou Séville. Le Portugal et l'Espagne n'imposent en effet pas de restrictions à l'entrée aux voyageurs français. Pas de quarantaine ni de test, juste un formulaire à remplir. Mais attention aux régions espagnoles bouclées qu'il convient d'éviter, comme celle de Madrid. Si l'on est en quête de soleil, la Grèce reste très accessible, à condition de remplir un formulaire avant le départ pour disposer d'un QR code indispensable. Pour l'Italie, comme la Belgique ou l'Allemagne, mieux vaut se munir d'un test négatif de moins de 48 heures, traduit en anglais ou allemand, même s'il est toujours possible d'en réaliser un à l'arrivée. Le Royaume-Uni ou les Pays-Bas découragent les courts séjours, quarantaine obligatoire de 10 à 14 jours. Pour un goût de liberté sans masque, viser la Suède, mais pas le Danemark, fermé aux touristes français. Tout cela est très évolutif, il faut donc se renseigner jusqu'au moment de partir.
Marie-Pierre Véraud. Le cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris est pour le moins précaire depuis samedi, date de la trêve, conclue sous l'égide de Moscou. Le conflit a pris de l'ampleur avec l'implication de la Turquie et l'envoi de mercenaires syriens. Il a, semble-t-il, provoqué la mort de centaines de soldats et de civils de part et d'autre. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, reçoit son homologue arménien aujourd'hui à Moscou. Et puis aux États-Unis, Donald Trump entame aujourd'hui un marathon de meetings en Floride, Pennsylvanie et Iowa, trois États clés en trois jours, avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici l'élection le 3 novembre prochain. C'est également aujourd'hui que le Sénat américain commence l'audition de la juge Amy Coney Barrett pour la Cour suprême, cette magistrate de 48 ans qui devrait ancrer durablement la plus haute cour de justice américaine dans le camp conservateur. Retour en France avec ce nouvel et peut-être dernier épisode judiciaire pour Bernard Tapie cet après-midi, avec encore et toujours au centre des débats l'arbitrage en sa faveur de 403 millions d'euros après le litige qu'il opposait au Crédit Lyonnais dans la revente d'Adidas. Arbitrage qui avait été définitivement annulé par la justice civile et qui avait donc condamné Bernard Tapie à rembourser, mais en appel et à partir de ce lundi, c'est l'honneur plutôt de l'ex-homme d'affaires qui se joue. En première instance, l'année dernière, le tribunal de Paris avait relaxé tout le monde, y compris Bernard Tapie, des faits d'escroquerie et détournement de fonds publics. Le parquet a fait appel et pour ce nouveau procès, Bernard Tapie, très affaibli, espère bien à nouveau gagner la mise, Corinne Audouin.
À 77 ans, Bernard Tapie souffre de deux cancers pour lesquels il suit un traitement expérimental en Belgique. Pas question pour autant de ne pas assister à son procès. L'envie de s'expliquer, c'est sans doute ce qui le tient en vie, confie son avocat Hervé Temim. Lors de sa dernière apparition publique, il y a un mois, à un concours d'éloquence du barreau de Paris, Bernard Tapie a expliqué, d'une voix abîmée par les traitements, comment il luttait contre la maladie.
C'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie? En bougeant, en se remuant. Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant « je ne peux pas me lever », vous êtes mort.
12 ans après l'arbitrage qui lui avait notamment accordé 45 millions d'euros de préjudice moral, Bernard Tapie tentera de convaincre la cour d'appel qu'il n'y a pas eu d'escroquerie. L'enjeu n'est pas de garder l'argent de l'arbitrage, celui-ci a été définitivement annulé en 2015. Et depuis, Bernard Tapie bataille devant les tribunaux de commerce. Il n'a toujours pas commencé à rembourser l'État. Le 30 avril dernier, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation totale de ses sociétés. Un jugement dont il a évidemment fait appel.
Et le procès devrait durer jusqu'au 18 novembre. On termine ce journal avec ce thème qui figure aujourd'hui dans beaucoup de vos journaux, le journalisme de solution, mis à l'honneur à l'appel d'une ONG, Reporters d'espoir. Trois objectifs fixés pour cette journée: mettre en lumière les acteurs, diffuser l'envie d'agir et se relever collectivement. Cette opération a pour but de montrer que face à une crise multiforme, le journalisme et les journalistes peuvent proposer une médiation différente, comme ce média en ligne, Marcel, 2LE, ce média donc qui s'est positionné depuis sa création il y a 3 ans sur ce journalisme de solution, comme on dit, différent du journalisme de bonnes nouvelles. Benoît Grossin.
Marcel, en résonance avec Marseille, rassemble un collectif d'une dizaine de journalistes installés pour la plupart dans la cité phocéenne et travaillant toujours pour des médias nationaux ou régionaux dans lesquels ils estimaient ne pas pouvoir mettre du sens dans le traitement de certaines informations, d'où la création de ce média de solution selon sa cofondatrice et membre de l'ONG Reporters d'Espoir, Natania Cahen.
Pour nous, le journalisme de solution, c'est vraiment un journalisme qui veut donner des clés de compréhension. Ça, c'est notre ADN. On met en lumière des dysfonctionnements et on met en avant ce qui peut se faire pour impacter de manière positive tout ce qui touche à l'individu, à la société et aussi à l'environnement.
Avec l'appui de conseillers, d'experts depuis le début, souligne Natania Cahen.
Du monde de la culture, des chefs d'entreprise, du monde du travail et de différents domaines dans lesquels on comptait bien s'aventurer.
Comment les lecteurs manifestent-ils leurs attentes ?
Alors, avant le Covid, on organisait régulièrement des soirées thématiques pour échanger sur leurs ressentis par rapport à Marcel. Et c'est à ces occasions-là, notamment, que voilà, on pouvait entendre que ce qu'on faisait et la manière dont on traitait l'actualité leur donnait satisfaction.
Satisfaction confirmée depuis le confinement.
Il y a eu beaucoup de sujets, société, solidarité, santé, et puis tout ce qui était associatif, tout ce qui pouvait être utile et apporter des réponses aux gens qui nous lisent.
Et pour Natania Cahen?
Dans le média de solution, il y a le média social. On veut vraiment essayer de faire en sorte que les solutions qu'on met en avant puissent s'aimer et créer à chaque fois des micro-communautés.
Il y a aussi des Marcel version papier sur des thématiques. 2 numéros spéciaux sont déjà sortis sur l'économie et l'environnement.
Voilà, le journalisme de solution, un thème qu'on retrouvera toute cette journée sur notre antenne. Le temps de ce lundi 12 octobre, la pluie arrive par le nord-ouest et les nuages vont s'étendre sur toute la région cet après-midi. Belles éclaircies sur le sud-ouest et soleil près de la Méditerranée. Comptez au plus chaud aujourd'hui entre 10 à 15 degrés en général, 15 à 18 en Aquitaine et entre 16 et 22 degrés sur la Méditerranée.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin.